Le masque et la plume. Le programme du jour est un panorama du cinéma mondial, puisqu'il réunit réalisateurs et réalisatrices espagnols, brésiliens, chinois, néerlandaises et français. Pour débattre de ces sorties en salle, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Colombani du Point, Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession et de France Inter avec sa chronique Le Temps des séries chaque samedi à 7h40. Bonheur d'accueillir aussi Pierre Murat, tel qu'en lui-même, et Ariane Allard de la revue Positif. Toutes et tous, allons débattre des films suivants. La chambre d'à côté de Pedro Almodovar, Baby Girl, présenté comme un thriller érotique d'Alina Rain, Les Feux Sauvages de Jia Zhangke, Le Quatrième Mur, film adapté d'un roman de Sorge Chalandon par David Ulofen, et Je suis toujours là, du Brésilien Walter Salles. Bonjour, bienvenue pour une heure de cinéma dans les oreilles. Le masque et la plume s'enregistrent le jeudi et nous venons d'apprendre à l'instant la mort d'un cinéaste qui a façonné nos imaginaires. C'est David Lynch, tandis que Los Angeles est en cendres. Alors je vous demanderai chacun de choisir un film de Lynch qui compte pour vous. On commence avec toi, Xavier.
Je dirais d'abord que sa dernière œuvre, c'est un remix pour Mylène Farmer. Donc rien que ça, déjà, ça le met au panthéon des auteurs important, Laura Dern, une comédienne extraordinaire qu'il a magnifiée dans son cinéma. Et si je ne dois garder qu'un film, c'est Inland Empire, qui est le dernier film totalement halluciné, totalement barré, le truc qu'on ne peut voir que dans la filmographie de David Lynch, qu'au cinéma, et qui me rend nostalgique de tout ce qu'il était capable de faire en dehors des sentiers battus, très battus souvent, d'Hollywood.
Ariane.
David Lynch, pour moi, c'était vraiment le cinéaste du rêve, même du fantasme, de l'inconscient, et puis aussi des possibilités vraiment infinies de la fiction. Et si je dois retenir un seul film, mais moi j'en aime vraiment beaucoup, c'est Mulholland Drive, que je peux revoir et ne toujours rien comprendre, et continuer à me plonger dedans et à être fascinée par les personnages, par la mise en scène, par l'univers, et puis par cette possibilité infinie à chaque fois de retrouver quelque chose que j'aime chez lui et que je ne comprends pas. C'est un cinéma énigmatique et magnifique.
Pierre.
Eh bien, moi, c'est un cinéaste important, mais qui me fascinait et m'agaçait beaucoup. Donc, je choisis Mulholland Drive dans le bon côté de David Lynch, parce que c'est un film absolument fascinant, c'est vrai. Et dans le côté qui m'exaspère, c'est Inland Empire, que je trouve une bouse énorme et intellectuelle et prétentieuse. Voilà.
Xavier et Pierre sont d'accord, comme toujours.
Non, mais c'est une raison de plus pour l'aimer.
Florence.
Je parlerai peut-être de Lost Highway, qui est le film jumeau de Mulholland Drive. C'est vraiment deux films qui fonctionnent ensemble sur ce ruban des rêves et ces deux versants de Los Angeles, la ville du fantasme et la ville de l'horreur. Et puis aussi Twin Peaks, parce que c'est la première grande série moderne. Ça a vraiment ouvert la voie à toutes les séries qu'on a pu aimer après. C'était la première grande série d'auteurs. Et disons-le, David Lynch, c'était vraiment un auteur avec un grand A, avec un univers, des thématiques et une capacité à inventer formellement qui était vraiment exceptionnelle.
Pour ma part, ce sera Blue Velvet, avec cette image qui m'a hanté longtemps, celle d'une oreille coupée dans une pelouse verdoyante.
C'était pas tous les jours, c'est vrai.
C'était David Lynch, 1946-2025. Pour le courrier de la semaine, depuis les Hauts-de-Seine, Diane Cordier nous raconte ceci. Pour démarrer 2025 joyeusement, je décide d'aller voir le dessin animé japonais Toto-chan afin de m'offrir une parenthèse poétique et émouvante. La salle est remplie de trentenaires, les bandes annonces défilent, mais la dernière se prolonge. 5-10 minutes passent jusqu'à ce qu'un titre de film s'affiche. Au lieu de Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, me voici devant Nosferatu de Robert Eggers. Les dieux du cinéma m'ont donc fait commencer l'année devant un navet risible, mais pas trop sérieux, pseudo-gothique et de mauvaise facture. Vous êtes un certain nombre à qualifier Nosferatu de nanar, mais pour Anthony, 26 ans, ce très grand film, je cite, s'inscrira dans les canons du cinéma gothique sans vous. Selon Anthony, les critiques assassines du masque sont totalement à côté de la plaque. Tandis qu'en 1922, le film de Murnau faisait du personnage féminin Hélène une créature fragile et stéréotypée, elle est au contraire complexe et maîtresse de son destin dans le Nosferatu de Robert Eggers avec une Lily Rose Depp magistrale. Nosferatu est de loin le meilleur film de ce début d'année. Que je n'ai pas vu !» s'exclame François sur Instagram. En revanche, cet auditeur se réjouit des critiques favorables pour « Un ours dans le Jura » de Franck Dubosc. Cela dit, écrit-il, familier de la région où se passe le film, « Le seul ours que j'y ai vu se trouve en page 2 de l'Indépendant du Haut-Jura » avec la liste des collaborateurs du journal. Une majorité d'entre vous, dont Luc Barbier de Gif-sur-Yvette, a aimé cette comédie, interprétée, je cite, par d'excellents acteurs, dont Laure Calamy en tête. Le fidèle et cinéphile Pierre Cusor de Gentilly tient à signaler le documentaire « Personne n'y comprend rien » de Yann Kergoat, consacré au financement libyen pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le film est diffusé dans peu de salles, mais connaît un bouche à oreille qui lui permet un excellent démarrage. Ce documentaire a tant de succès, précise Pierre, qu'il faut s'organiser pour avoir une place. Vous adorez les séries, mais n'avez pas le temps de visionner 5 saisons à lui seul. Ce documentaire est un condensé de 20 ans d'affaires politiques, judiciaires, avec suspense, répliques mordantes, recoupements imparables et relevés d'informations essentielles au fonctionnement de la République française. Enfin, Frédéric Pavlik d'Audintiche et un auditeur qui se fait appeler Dos Santos devance la prochaine tribune en nous envoyant leur avis sur La Chambre d'à côté, nouveau film de Pedro Almodovar, chef-d'œuvre apaisé sans pathos ostentatoire, dont je suis pourtant sortie les larmes aux yeux, écrit Frédéric Pavlik, ennuyeux, verbeux et plein de poncifs dans un décor Ikea, s'exclame Dos Santos. Quant à la vie du masque, c'est à suivre après la virgule. J'ouvre donc ce masque avec Julianne Moore et Tilda Swinton, duo d'actrices de La Chambre d'à côté réalisée par Pedro Almodovar. Tilda Swinton est Martha, une ancienne reporter de guerre, et Julianne Moore, une écrivaine qui se prénomme Ingrid. Martha est atteinte d'un cancer en phase terminale et elle demande à Ingrid de l'accompagner dans la mort. Martha veut décider du moment et du lieu. Ce sera dans une maison magnifique qu'elle a louée à 2 heures de New York. Almodovar a minutieusement, voire ostensiblement, disposé plusieurs œuvres dans cette maison, dont une toile d'Edward Hopper, qu'il reproduit quasi à l'identique avec ses deux actrices. Le rôle de l'art dans l'existence est un des enjeux du scénario. Scénario qu'Almodovar a écrit en s'inspirant d'un roman de l'écrivaine américaine Sigrid Nunez. À ce duo d'actrices, il faut ajouter John Turturro, dont le personnage fut l'amant de Martha et qui flirte avec Ingrid. C'est la première fois qu'Almodovar tourne un long métrage en anglais et la première fois aussi qu'il a été récompensé d'un Lion d'Or à la Mostra de Venise. Est-ce que tu serais d'accord avec cette récompense, Florence ?
Mais 1000 fois, je trouve que là, c'était un coup de génie de donner ce Lion d'Or avec ce film très majestueux qui prend son temps, qui a aussi un rapport à la langue très particulier. En effet, c'est son premier film en anglais et il y a quelque chose de déstabilisant parce qu'évidemment, c'est l'hispanité incarnée, Pedro Almodovar, et qu'on soit dans cet univers anglo-saxon, ça peut désarçonner. Mais tout ça, ça nous donne le temps et la distance et la réflexion par rapport à un sujet très émotionnel qui est le sujet de notre rapport à la mort. Et en effet, le film réussit à ne pas être dans le pathos et surtout à nous donner une bulle de réflexion. Et c'est aussi vrai de cette hyper esthétisation propre à Almodovar, mais qui est particulièrement flagrante ici, un jeu sur les couleurs, du mobilier design, on est dans un contexte
des vêtements
huppé. Mais tout ça, ça nous donne un espace pour ne pas être submergé par les émotions qui sont liées à ce sujet, et ça nous donne un espace de réflexion. Et puis pour moi, ce dont tu parlais, Rebecca, c'est-à-dire ce rapport à l'art, il réussit à mettre l'art au cœur de ce qui fait le sens de la vie, et il y a notamment un très beau dialogue avec Jean de Dublin de John Huston, à la fois le texte de James Joyce et le film de John Huston, et puis un dialogue plus secret, plus caché, avec Cri et chuchotement d'Ingmar Bergman. Mais contrairement au film de Bergman, on n'est pas dans l'horreur de la maladie, on est plutôt dans la méditation sur la mort, et c'est dans cette sérénité-là que le film trouve toute sa grandeur.
Est-ce que ça t'a rendu serein, Xavier ?
Non, ça m'a profondément agacé. Je suis encore plus agacé de ne pas être d'accord avec Florence, que j'aime tendrement. Mais là, on n'a pas vu du tout le même film. Et ne serait-ce même que par la construction du scénario, quand tu dis qu'on a le temps, si on regarde le film de manière très objective, la mort arrive quand même au bout de 35 minutes. C'est-à-dire qu'on a 2 flashbacks interminables et pas très malicieux sur le passé des personnages, en particulier celui de Tilda Swinton, où on l'a fait photographe de guerre à un moment en Syrie, rencontrant 2 prêtres homosexuels. Mais l'histoire ne sert à rien. Et donc, ça commence au bout de 35 minutes. Il y a un épilogue d'un quart d'heure qui frise un peu le ridicule malgré une idée qui aurait pu être extrêmement jolie mais qui ne l'est absolument pas. Et le reste, on a des discours très sentencieux sur l'art, la mort.
Tout est très explicite.
Tout est très explicite, tout est déjà très mort, c'est un peu le problème du film, c'est-à-dire que la vie a déjà été terrassée au moment où le film commence. D'ailleurs, au moment où le film commence, c'est un film par Almodovar. Il n'a plus de prénom, c'est Pedro, c'est une marque. Maintenant, c'est comme Habitat, c'est comme Yves Saint Laurent.
C'est un auteur, c'est ça un auteur, c'est une marque, ouais.
Non, ben non, non. Alors moi, ça m'intéresse pas du tout. Et au fur et à mesure du film où je vois qu'effectivement Tilda Swinton va choisir le bon rouge à lèvres pour pouvoir mourir avec la bonne tenue allongée sur le bon transat, parce qu'il faut pas se tromper de transat quand on va mourir, quand même. Hein. Faut pas non plus s'asseoir dans n'importe quoi. Je trouve que ça frise. Mais vraiment le ridicule. Et je me dis, le Almodovar que j'ai aimé et que j'espère retrouver un jour, il serait pas tombé dans le piège de ce que raconte le film. C'est en gros, pour mourir dignement, il faut mourir avec du fric. Et moi, ça me met hors de moi.
Pierre, en colère aussi ou pas ?
Non, pas en colère. Je trouve que c'est pas un mauvais film. Tu es un peu sévère. Mais je te rejoins vraiment sur beaucoup de points. C'est-à-dire que je trouve que c'est un petit Almodovar parce qu'il est mal à l'aise pour commencer. Il sait pas comment faire parler ces deux Américaines. Quand il faisait parler des femmes espagnoles, Pedro, il est très à l'aise.
Et là... Toi, tu dis Pedro.
Pedro, ben oui, le grand Pedro. Le grand Pedro. Mais là,
Pedro et Pietro.
Là, ces deux intellectuelles américaines, alors il les fait dire des allusions sur, et tout ça sonne faux. Et alors, le grand problème, c'est que, vous avez tous remarqué, c'est un film sur des gros plans. Alors moi, j'adore les gros plans. C'est formidable. Vous prenez Jenna Rollands regardée par Cassavetes ou Woody Allen dans Une autre femme, c'est magnifique, ça dit quelque chose. Bergman, Persona, chaque gros plan est une souffrance ou une... Enfin, là, il passe son temps à filmer des gros plans. Ces gros plans, il ne se passe rien. Et alors, le pire, c'est le gros plan sur Turturro, John Turturro, qui nous énonce en effet, là tu as tout à fait raison Xavier, des évidences, sur... et il n'y a rien de pire qu'un cinéaste vieillissant qui croit que le monde va finir parce qu'il vieillit. Alors la seule chose qui est absolument magnifique pour moi dans cet Almodovar mineur, c'est la musique.
Je la trouve Alberto Iglesias.
Ouais. Il a souvent fait des musiques absolument superbes. Là, je la trouve formidable parce qu'elle est à la fois lyrique et inventive. Donc s'il y a quelque chose à sauver de ce petit Almodovar, c'est la musique d'Iglesias.
Elle n'est pas un peu redondante quand même, elle n'est pas un peu surlignante.
Non, pas vraiment, enfin bon.
Et toi, vas-tu sauver Pedro, Ariane ?
C'est pas la première fois évidemment qu'il aborde le sujet du déclin et de la mort, et j'avoue que moi, son autoportrait, Douleur et gloire, m'avait complètement bouleversée,
oui.
Et que je suis sortie de ce film en me disant il est sublime. Mais je ne suis pas du tout touchée ni émue. Et je me suis posé la question. Je pense que c'est un film qui nous parle d'une femme qui veut devancer et organiser sa mort. Et ce film, je trouve, raconte assez bien le côté contrôle fric d'Almodovar, qui est complètement obsédé par cette perfection formelle, par ces couleurs dont tu parles, par cette maison d'architecte qui est absolument sublime.
Si bien que ça vire un peu la posture, parfois.
Ben voilà, c'est ça. Et en fait, il y a une espèce... J'ai l'impression qu'il est rattrapé par cette espèce de maîtrise, mais qui est poussée à un tel degré que ça fait un peu écran aussi entre ce qu'il nous raconte et ce qu'on est censé ressentir. Bon, après, il y a des choses que j'aime. Moi, j'aime beaucoup l'idée. C'est un motif qui est très courant au cinéma, mais cette porte rouge.
Ouais, ça, c'est
alors, toi, tu parles de Bergman. Moi, j'ai pensé à Fritz Lang, Le secret derrière la porte. On a tous envie, évidemment, chaque fois qu'on voit une porte, notamment au cinéma.
Faut préciser dans le film, en fait, Tilda Swinton dit à son amie Julianne Moore, si la porte est ouverte, je suis vivante. Si elle est fermée, c'est que j'ai décidé d'en finir.
Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui devrait être touchant et bouleversant, ça reste une très belle idée et ça reste simplement très beau pour moi. Voilà.
Mais c'est le quiproquo du coup de vent qui la ferme une première fois.
Voilà,
là, c'est pas possible.
Mais là, c'est pas possible. On est d'accord. Bon.
Est-ce que dans le public, quelqu'un souhaite prendre le micro pour la chambre d'à côté de Pedro Almodovar ? Oui, monsieur. Bonjour.
Moi, je ne suis pas le pape, mais j'ai envie de dire n'ayez pas peur du sujet, parce qu'il peut faire peur. Vous avez beaucoup reproché les décors, mais je trouve que pour parler d'un sujet pareil, il vaut mieux avoir un beau film. Je trouve les actrices sublimes. Je trouve les dialogues, contrairement à ce que vous avez dit, hyper précis et très, très juste. Il y a un peu d'humour avec Turturro. Et le seul regret que je pensais que ce qui aurait été bien, c'est que quand sa fille revient, ce soit la véritable fille de Tilda Swinton qui vienne. sur le...
Qui est une très belle actrice qu'on a vue dans ce
souvenir. Alors, je vais faire un post-scriptum. Oui. J'ai travaillé plusieurs décennies chez Ikea et je vous assure qu'on n'est pas habillé. On ne loge pas les gens avec ce type de produit dans ce film. La personne ne sait pas ce que c'est que le design.
Après Almodovar et la chambre d'à côté, le film suivant s'intitule Baby Girl, réalisé par la néerlandaise Alina Rein, avec Nicole Kidman dans le rôle principal, rôle qui lui a valu la coupe Volpi, c'est-à-dire le prix de la meilleure actrice à la dernière Mostra de Venise. Son personnage se prénomme Romy et elle incarne ce que d'aucuns appellent une femme puissante. Elle est à la tête d'une entreprise de robotique, elle semble être la mère exemplaire de deux adolescentes, elle est mariée à un metteur en scène de théâtre, Antonio Banderas à l'écran. Bref, Romy est la bosse. Cela dit, Baby Girl commence par deux scènes de sexe qui se suivent. Un coït conjugal dans une chambre, d'abord. Une scène de masturbation dans un bureau, ensuite, puisque Romy n'atteint pas l'orgasme avec son mari. Sa vie menée au cordeau vacille le jour où un stagiaire beau gosse, plein d'aplomb et d'insolence, arrive dans son entreprise. Romy a plus de 50 ans, lui, la petite vingtaine, et il semble avoir les clés de ses désirs. La liaison qui se noue entre eux pose une question très contemporaine. Entre elle et lui, entre la quinca et le jeune homme, entre la bosse et le stagiaire, qui détient réellement le pouvoir? Le jeune amant de Romy est joué par Harris Dickinson et la réalisation de Alina Rein fait référence explicitement à plusieurs thrillers érotiques du siècle dernier comme 9 semaines et demie, Liaison fatale, et c'est un écho à Eyes Wide Shut aussi. Sur l'affiche, le sous-titre de Baby Girl étant Méfiez-vous de ce que vous désirez. Est-ce que tu t'en méfies, toi, Xavier?
Ah non, j'ai grandi le jour où je ne me suis plus méfié de mes désirs, mais au contraire, je les ai vécus et je les ai appréhendés. Ce qui arrive effectivement au personnage de Nicole Kidman, tu voulais qu'on fasse court, c'est la meilleure comédie de l'année. Moi, j'ai passé mon temps à rigoler devant cette espèce de faux film féministe. C'est quand même le troisième de l'année qui tombe toujours dans les mêmes clichés et les mêmes travers moralisateurs, parce que c'est le gros problème de Baby Girl. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as décrit la scène de nanisme qui suit le coït conjugal au début du film. Il faut dire quand même que la vidéo qu'elle regarde est une vidéo extrêmement trash.
Oui.
Donc on sent qu'elle a déjà une appétence pour la soumission, le sadomaso. Et le film va nous expliciter ça de façon extrêmement lourdingue. Parce qu'avant qu'il ne franchisse la porte de son bureau, le beau gosse, il arrête une chienne dans la rue qui est en train de vouloir mordre la pauvre Nicole.
Il l'abadoue.
Vu qu'elle ne porte que des manteaux à 10 000 dollars, heureusement qu'il ne déchiquette pas le manteau, parce que ça aurait donné un tout autre sens à la séquence. C'est consternant, ce regard moralisateur, parce que évidemment.
Tu avais trouvé ça moralisateur.
Ah, mais effroyablement moralisateur. Je vais pas raconter la fin, ne me tends pas ce piège,
non,
effectivement, béant dans lequel je ne tomberai pas. Mais.
Moi aussi, moi aussi, je vais tomber.
Voilà. Il y a un moment où, dans une soirée, on comprend que le jeune homme qui s'y est invité a commandé pour Nicole Kidman un verre de lait. Elle comprend qu'il lui a envoyé, ou pas, mais enfin bon, bref, elle boit le verre de lait.
Tatin.
Tatin, quand même. Il part en lui disant « Good girl, brave fille » et commence le requiem de Mozart. Et ben ça, si c'est pas moralisateur, tu lui as obéi une première fois, hop, directement aux enfers. Et tout le reste du film est sur ce créneau-là. C'est nul.
En tout cas, il y est question des désirs d'une femme. Florence.
Moi, j'ai pas trouvé ça nul. J'ai trouvé ça assez intéressant à voir. Pas tellement pour le côté Fifty Shades of Grey intello, parce que c'est quand même ça. C'est quand même clairement un film nourri de plein de références intello et très hanté par Eyes Wide Shut, mais qui traite exactement le même sujet, c'est-à-dire la soumission, l'humiliation comme mode de relation sexuelle.
Mais encore une fois, de son point de vue à elle.
De son point de vue à elle. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le regard sur notre monde, parce que c'est un film très laid, vraiment très très pénible visuellement, parce que ça fait partie d'un commentaire sur la société. C'est un film assez consterné par le monde qui nous entoure, peut-être dans ce sens-là aussi porteur d'une morale, enfin d'une condamnation. Il me semble pétri par des influences de photographes. Alors j'ai pensé à Martine Parr pour des intérieurs totalement déprimants, et au photographe Andreas Gursky qui fait ces très grandes photos d'entrepôt, parce qu'il y a des séquences comme ça dans l'entrepôt que Romy dirige. Le personnage de Nicole Kidman qui, il faut dire, a un visage extrêmement étrange, parce que très déformé par la chirurgie esthétique, et c'est traité dans le film.
Hein, c'est intégré,
voit.
Oui.
Voilà,
c'est un enjeu de scénario, ce visage.
C'est hyper humiliant pour elle.
Et je pense pas. Oui, alors ça aussi, je pense que c'est un des sujets du film. C'est aussi le portrait d'une actrice qui est prête à tout pour un film, qui est prête à faire à vraiment des scènes où on est très perplexe et on se dit, on a une sorte de dédoublement, on se dit mais elle a fait ça, elle a filmé ça, et il y a un monologue au cœur du film où là j'ai trouvé Nicole Kidman extrêmement émouvante, on a l'impression qu'elle nous parle et elle dit qu'elle a honte d'elle-même, et il y a cette espèce de rapport à soi, de vision de soi-même très sale, très dégoûtée, ça donne quelque chose dans le film. Moi j'ai trouvé que le film m'engageait, c'était intéressant à cause de ça, à cause de ce double côté documentaire sur l'époque. Il faut dire aussi les gens sont greffés à leur portable, ils sont incapables de faire autre chose que de regarder leur portable, enfin c'est très déprimant. Et le côté portrait de Nicole Kidman, pour ces deux raisons, moi j'étais contente de l'avoir vu. Donc, merci Rebecca.
Ariane,
je suis assez d'accord pour le portrait de Nicole Kidman. Du coup, je suis allée revoir un petit peu sa filmographie. J'ai l'impression que le thème quand même du contrôle et du lâcher prise chez elle,
mais c'est récurrent.
C'est récurrent. C'est, il y a eu Dogville, il y a évidemment.
Et par rapport à la sexualité.
Voilà, et par rapport
c'est
à la sexualité.
C'est son œuvre.
On dit toujours c'est la reine des glaces parce qu'effectivement, elle a cette espèce de beauté plus que parfaite et très travaillée, on va dire. Mais elle est toujours au bord du dérapage. Ça, je trouve ça intéressant. Et même si le marketing autour du film nous le vend et nous le survend, ce côté Kidmanesque, on va dire, c'est relativement intéressant. Après, moi, j'ai deux réserves vraiment très importantes. Sur la forme, c'est un film qui s'inspire de ces fameux thrillers érotiques des années 80-90, Liaison fatale,
9 semaines et demie,
La fièvre au corps,
Basic Instinct trucs. Aussi.
Voilà, bon. Moi, je trouvais que c'était déjà très pénible de les regarder à l'époque. C'est encore plus pénible, même si elle veut en faire soit une parodie, soit inverser les codes, puisqu'elle, elle veut donner évidemment le point de vue féminin. Ça reste quand même, tu dis que c'est laid, c'est une esthétique pubarde, criante, enfin vraiment qui est d'une laideur incroyable. Puis la deuxième chose, moi, qui me dérange quand même profondément, en tout cas qui m'interroge, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a de féministe de donner une fois encore la possibilité à une femme puissante de se soumettre à un homme, c'est-à-dire de ramener sa sexualité à une sexualité de soumission. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un imaginaire érotique hyper patriarcale et qu'elle n'en fait pas grand-chose de plus que ce que les hommes précédents qui ont travaillé sur le même sujet et sur la même problématique ont fait. Donc j'aimerais bien savoir, si quelqu'un peut me l'expliquer, moi j'écoute volontiers, hein, mais je n'ai toujours pas compris en quoi ce film était féministe.
T'aurais une explication toi Pierre ?
Ah non, non, je ne comprends pas pourquoi ce film est féministe. Ça, c'est d'ailleurs ce qui m'amuse beaucoup. Beaucoup plus que le film, d'ailleurs, c'est de lire quelques critiques, hommes et femmes, d'ailleurs, qui rament comme des malades pour dire « oui, 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 c'est un film sur l'émancipation ». Non, je trouve que c'est un roman de gare, voilà, c'est un roman de gare. Moi, je suis très mauvais client, parce que le sadomasochisme à l'écran, c'est très simple. Ou vous partagez les fantasmes, et à ce moment-là, ça peut vous plaire, mais si on partage pas du tout les fantasmes, il n'y a rien de plus comique que le sadomasochisme à l'écran, quoi. Enfin, c'est parce que t'es là, tu te dis ah mais non, pourquoi il fait ça. Alors moi, j'avoue que
non, mais
voir,
c'est vrai.
Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que voir l'actrice Nicole Kidman boire du lait dans une soucoupe, laper du lait et ensuite se pelotonner contre le mec qui lui a ordonné de boire le lait, ça me donne le fou rire parce que je ne partage pas ça. C'est très bien, on a tout à fait le droit quand on est adulte consentant de faire ce qu'on veut, mais la montrer comme ça sur un écran, c'est forcément comique. Et j'ai surtout pensé à un film. Alors lui, de Marco Ferreri, qui était provocateur, il s'appelait Lisa, qui avait fait scandale il y a 40 ans, où Catherine Deneuve, après avoir tué le chien de Marcello Mastroianni, qui était son meilleur pote, se mettait à la place du chien, lui léchait la main, et devenait une chienne, en quelque sorte. Seulement chez Ferreri, le sadomasochisme était politique, sociale, morale, métaphysique, c'était une dénonciation terrible. Là, ben, c'est 50 nuances de grès, un peu moins, en aussi bête.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour sauver éventuellement Baby Girl de Alina Rain avec Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas ? Non. Oui, monsieur ?
Eh bien, ce film, il est l'inverse du film d'Almodovar. Il est vulgaire et moche. Voilà. Et je voulais parler peut-être de l'acteur que j'avais trouvé très bien dans le film de Osloon, quand il était mannequin, et là je l'ai trouvé très mauvais.
Harris Dickinson, donc.
Harris, il est pas mal.
Oui,
je l'ai trouvé très, très mauvais, surtout dans sa dose érotique sur le George Michael, qui est abominable et qui semble avoir émoustillé...
Qui ça?
Marie Sauvion dans Télérama. Voilà. J'ai trouvé ça... Et alors, la morale, la fin, et je ne le dis pas, mais c'est affligeant.
Je clôt donc cette tribune sur Baby Girl d'Alina Rain et nous allons continuer avec Les Feux Sauvages du cinéaste chinois Jia Zhangke qui retrouve deux de ses interprètes fétiches, son épouse Zhao Tao et le comédien Li Zubin. L'histoire est une fiction minimaliste et très peu dialoguée. Un homme et une femme s'aiment dans une petite ville minière du nord de la Chine, mais lui s'en va pour tenter de faire fortune dans une grande ville, et il laisse sa fiancée sans nouvelles. Elle part alors à sa recherche et traverse le pays vers le sud. S'engage une épopée qui se déploie sur une vingtaine d'années, entre 2001 et 2022, l'occasion pour Jia Zhangke de saisir les mutations économiques, sociales et visuelles de son pays, où cohabitent cabaret traditionnel et vidéos tournées au téléphone pour TikTok. Jia Zhangke se retourne sur l'histoire de son pays et sur son cinéma, puisqu'il tisse son film d'images documentaires, de fiction et surtout de rushs inédits qu'il a tourné depuis 20 ans. Comme s'il ne cessait de remettre ses images sur l'établi, ça n'est pas la première fois qu'il revisite son œuvre. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Ariane.
C'est un film qui revient aux sources ou à l'essence même du cinéma. C'est-à-dire qu'il nous parle à la fois du temps et du mouvement, en l'occurrence du déplacement. Ça parle donc de l'évolution, en fait, à la fois d'une femme et de son parcours.
Et d'un pays.
Et d'un pays. Évidemment, moi, ça m'a d'autant plus touchée que c'est en plus un parcours d'une femme. Elle se construit pour être de plus en plus indépendante. Et ce qui est très beau, c'est que c'est une femme qui parle très peu, parce que ce film repose essentiellement sur ses images et sur le montage. Alors, quand on connaît, évidemment, Jia Zhangke, on voit un peu les films auxquels il fait référence. Il travaille beaucoup le plan séquence. Hein, et cette façon de travailler l'image, c'était une façon, non pas d'aborder les gens, mais de les envisager. C'est-à-dire qu'on a l'impression de rentrer dans la scène en même temps que les personnages passent, croisent le regard du cinéaste et puis s'en vont. Ça crée une proximité extraordinaire et très émouvante avec les gens dont il parle. Voilà. Moi, je trouve ça absolument magnifique.
Pierre ?
Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment très, très bien. En plus, Jia Zhangke vraiment est un cinéaste qu'on beaucoup. Je suis évidemment très, très sensible à sa mise en scène et il n'a rien perdu de son talent. Quand on voit à la fin, que je ne raconterai évidemment pas, mais
la dernière.
Oui, oui, voilà. Ouais. Autrement dit, tout ce qu'il a filmé avant et que l'on voit dans le film, mais tout ce qu'il a filmé ces derniers temps est au moins aussi beau. Il y a une grâce dans la dernière partie du film qui est absolument magnifique. Mais le plus important, me semble-t-il pour moi, c'est cette Chine des années 2000 à 2020 qui change, qui évolue pour le meilleur et souvent pour le pire, et que le cinéaste montre avec flamme et avec mélancolie.
Florence.
Oui, moi j'ai vu dans ce film un peu le pendant chinois de Roberto Rossellini, c'est-à-dire qu'il y a ce mélange de documentaires, de photographies d'une réalité, de capacité à trouver chez des gens qui ne sont pas des acteurs le potentiel dramatique et de leur donner toute la place, de les mettre au centre, et puis d'enregistrer vraiment la réalité, les transformations du pays. Tout ça, et aussi le regard sur la femme aimée, parce que cette actrice Zhao Tao, quand on voit les films de Jia Zhangke, on la voit dans tous ses films, on l'a vu évoluer, et à chaque rôle est un cadeau magnifique. Enfin, il y a vraiment une interaction entre eux.
Et c'est son effet, épouse.
C'est son épouse. Ouais. Et comme tu disais, Ariane, il y a le fait qu'elle parle peu, mais et qui lui donne. Enfin, elle a une intensité à l'écran. Elle habite l'écran d'une façon vraiment exceptionnelle. Donc il y a ce regard amoureux, cette vision sociopolitique. Enfin, c'est vraiment très proche, je trouve, de ce qu'a été Roberto Rossellini pour le cinéma italien. Et ça se passe aujourd'hui. Donc il y a les 20 ans écoulés. Il y a l'avenir, puisque le regard qu'il pose dans la dernière partie nous amène vers ce qui nous attend. Donc c'est un film important, c'est vraiment un grand film.
Alors est-ce qu'il va faire l'unanimité de la tribune ?
Il fera l'unanimité, moi je trouve un film magnifique. Vous avez tout dit, donc je vais faire vite. Moi ce qui me passionne, c'est que sur 20 ans, puisque son premier film date de 1997, donc c'est vraiment contemporain de son œuvre, dès le départ, même quand il tourne des choses anecdotiques comme des femmes qui chantent des chansons populaires en format carré, puisque l'époque le veut, dans une petite pièce que l'on devine très froide, puisqu'il y a un petit bras zéro, le point de vue de la mise en scène existe déjà. C'est du documentaire, c'est in situ, c'est pris sur le vif, et il a une manière, par un simple panoramique, de caresser, comme tu le disais très très bien, Ariane, ses personnes, pas nécessairement de s'intéresser à celles qui chantent, mais aussi à celles qui écoutent. Le mouvement n'est pas collé à celui des personnages, entre guillemets, mais il est une vraie proposition, une vraie empreinte de mise en scène. Et tout le film, que ce soit des images volées, embarquées, qu'il est allé chercher avec ses copains, tout est porté par la mise en scène. Et ce qui est extraordinaire, et je m'arrête là, c'est qu'à la fin, ça fait un film parfaitement contenu et parfaitement pensé en termes de réalisation globale.
Alors que les images sont naturelles,
voilà,
extrêmement.
Ça n'est pas une espèce de copier-coller de petites séquences. C'est-à-dire, il y a un mouvement que je trouve exponentiel en termes effectivement politiques, sociétales et romanesques. C'est superbe.
Une participation du public du théâtre de l'Alliance française pour Les Feux Sauvages de Jia Zhangke. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Pour l'avoir vu, alors ce week-end, mais pas entièrement parce que le Projo a lâché avant nous.
Ah.
Donc, on ira voir la fin parce qu'à vous écouter, la fin est assez sensible, mais le début le montre bien aussi. Et c'était juste parce que, alors, on a commencé, on n'a jamais vu de film de ce cinéaste, donc c'est un peu âpre au côté non-dialogue et presque mutique parce qu'on a l'écran noir avec le dialogue, enfin, qui est reproduit de façon écrite, et ça c'est un peu surprenant, mais grande sensibilité qui a porté, et pour s'être arrêté à l'épisode un peu sociétal du barrage des Trois Gorges, c'est très intéressant pour retracer l'histoire de cette Chine.
Merci. Après Les Feux Sauvages de Jia Zhangke, tourné en Chine, voici Le Quatrième Mur de David Holofernes, qui adapte le roman de Sorge Chalandon, paru sous le même titre en 2013. Et là donc nous sommes au Liban. Georges, interprété par Laurent Lafitte, veut honorer la promesse qu'il a faite à un ami mourant, le remplacer pour monter Antigone de Jean Anouilh, au Liban donc, tandis que le pays est en proie à la guerre civile. Nous sommes alors en 1982. Georges n'a aucune expérience des conflits et pour la distribution de la pièce, il a l'ambition de rassembler des comédiens que la guerre oppose. Antigone est palestinienne, Créon est un chrétien maronite, Aimon est druze. Pour réunir sa troupe, Georges doit traverser la ville et ses lignes de front, le film alternant images de guerre et répétitions sur scène. Simon Abkarian est aussi à l'affiche de ce cinquième long métrage de David Holofernes qui pose la question du rôle de l'art dans la guerre. Pierre, ça fait un moment que tu m'avais parlé de ce film.
Oui, je trouve que c'est un film absolument magnifique. Moi, j'ai été très séduit, très bouleversé, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique et de plus bête en même temps que de monter une pièce de théâtre sur le lieu où tout le monde s'étripe en pleine guerre civile. Donc il y a, et je trouve que David Holofernes, dont j'aime beaucoup vraiment pratiquement tous les films, se sert de ça pour faire une fresque qui est à la fois spectaculaire, si j'ose dire très rythmée, très tendre et très dure, puisque c'est l'histoire d'un type qui justement va passer la barrière de son idéal et va être obligé de passer à l'acte et ça va le détruire d'une certaine façon. Je trouve que c'est un film avec Laurent Lafitte que j'ai jamais vu comme ça au cinéma. Je le trouve absolument magnifique. À côté de lui, Simon Abkarian est formidable, mais aussi Manalisa Issa, oui, la comédienne qui va jouer Antigone,
oui.
Ou bien le petit Tarek Yacoub qui, en une scène, nous révèle un secret. Je trouve que c'est un film d'une sensibilité et d'une force formidable.
T'as dit magnifique plusieurs fois. Est-ce que tu le diras aussi, Ariane ?
Non, je ne serais pas aussi enthousiaste que toi. Je trouve l'histoire très forte. Je trouve les deux comédiens principaux, tu as raison, Lafitte, de ce personnage égaré, déplacé même, je le trouve très très fort. Abkarian, il a une puissance d'incarnation immédiate, c'est-à-dire que quand moi je le vois, quand je l'entends, il le conduit en fait, hein, c'est son chauffeur, il est druze, je crois immédiatement à cette vérité-là. En revanche, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est un petit peu scolaire et c'est surtout un petit peu trop illustratif à mon goût, c'est-à-dire qu'on est quand même pas mal dans la reconstitution du théâtre des opérations, puisqu'on parle de théâtre. Et il y a une scène, je ne vais pas dévoiler la fin, parce que ce n'est pas à la fin, mais il y a une scène de déambulation où le personnage de Laurent Lafitte cherche son amoureuse. Ça se passe à Chatila. Qui dit Chatila dit massacre de Chatila.
Ouais.
Et effectivement, il déambule comme un fantôme dans des ruelles où on voit des cadavres qui sont amassés à droite à gauche. Il pénètre dans sa maison, et c'est une maison qui est totalement figée par la mort. Il va retrouver son amoureuse qui a été assassinée, et ça donne lieu à une scène, à un tableau. C'est comme une composition, une espèce de Pietà inversée, puisque c'est lui qui la tient et elle qui est assassinée. Et je trouve cette scène totalement inutile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, d'abord parce que surdramatiser quelque chose qui est de l'ordre de l'horreur, c'est pas la peine par le biais d'une histoire d'amour. Et ensuite, parce que montrer, et des fois je trouve qu'au cinéma, ne pas montrer, c'est encore plus fort et c'est encore plus puissant, ça s'appelle le hors-champ. Je ne veux pas du tout donner une leçon de cinéma, encore une fois, parce que je trouve que le film est solide et se tient. Hein. Mais cette scène-là, elle me gêne et je trouve qu'elle est maladroite.
Xavier ?
Moi, je suis du côté de Pierre. J'aime beaucoup David Olofen. C'est vraiment un cinéaste extrêmement intéressant qui retrouve un de ses thèmes, qui est celui du territoire et de la frontière, qu'il a vraiment investigué dans tous ses films précédents. C'est un film plus bavard, surtout par rapport au précédent. Je suis d'accord avec toi, peut-être, pour cette scène-là. Et en même temps, elle est accompagnée par une bande-son très tachycarde, une espèce de pulsation comme ça, que je trouve extrêmement intéressante. Et la musique va souvent, d'ailleurs, sur ce territoire-là. Donc, il y a quand même quelque chose de très pensé dans le cinéma de David Olofen qui, moi, m'intéresse, en tout cas, en termes de mise en scène et en termes d'effets émotionnels. Après, il y a une question qui est centrale dans le film, à un moment, qui est la distinction entre le mélodrame où les gens sont porteurs d'espoir, et puis la tragédie où, dès le départ, on s'est cramé, voilà. Et nous, on sait dans quel registre on est, puisque le film commence par la fin, et je trouve que réfléchir en termes de cinéma et en termes de narration sur cette dualité entre la tragédie et le mélodrame, et ça passe aussi par la mise en scène, par cette manière de regarder des territoires détruits, ces ruines, le théâtre où il répète est absolument magnifique.
Oui, mais il y a une utilisation que... justement de cette...
Eh ben non,
cette,
moi pas.
De ces ruines,
vois, pas ça,
le théâtre, moi j'ai trouvé que c'était au bout d'un moment, c'était un
peu... Moi aussi, ça me bouleverse, ça me...
Florence.
Moi, je rejoins Ariane, c'est-à-dire que j'ai été très prise par les deux tiers du film, la peinture de la vie quotidienne pendant la guerre au Liban, ça fait aussi écho à l'actualité et c'est très poignant. Ça montre vraiment quelque chose de très détaillé, de très sensoriel sur ce que ça peut être de vivre avec des bombardements, de vivre dans un univers où tout peut basculer à tout moment. Donc tout ça, c'est très très fort et Laurent Lafitte est formidable. Moi, le film me perd au moment dont Ariane parlait. Et je vais pas reprendre ce qu'elle disait, mais c'est tout à fait ça. Et pour moi, ensuite, le fait qu'on soit dans ce programme de tragédie, c'est une sorte de rouleau compresseur qui fait qu'on sait où va le scénario. La construction est déterminée. Il y a aussi cette accentuation de cet amour pour la jeune fille qui, quand même, est très peu caractérisée au-delà du fait qu'elle joue Antigone et ça devrait suffire à la caractériser. Et donc, je trouve que là, le film se désincarne et tout ce qui était si fort et si nuancé dans cette première partie se perd dans cette structure dramatique un peu lourde.
Cher public, est-ce que vous souhaitez apporter votre contribution au masque pour le quatrième mur ?
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que l'interprétation, c'est lors des répétitions de la scène de théâtre, Lafitte nous donne la définition du drame et de la tragédie. Et nous, on voit bien que l'espoir qu'il met dans cette mise en scène de théâtre, c'est rassembler les gens. Et la tragédie, elle est encore plus forte maintenant, puisque nous... C'est en 2024, on connaît la suite. Là, c'était que le début, hein, c'était 83. Et donc, pour moi, c'est vraiment un excellent film.
Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? C'était donc la tribune dédiée au quatrième mur de David Olofen. Pour terminer, nous passons à « Je suis toujours là » du Brésilien Walter Salles. Nous sommes à Rio de Janeiro en 1970, pendant la dictature. Malgré les contrôles et les convois militaires, Rubens et Eunice coulent des jours heureux, fixés par des films Super 8. Ils ont 5 enfants, vivent à Copacabana, tout près de la plage, dans une maison qui va devenir le centre du film. Une maison joyeuse, pleine de livres, de jeux et de musique. Jusqu'au jour où des hommes viennent chercher Rubens pour ce qui semble être un interrogatoire de routine. Sa femme, Eunice, et ses 5 enfants vont tenter de faire face et de comprendre l'absence de Rubens. « Je suis toujours là » est une adaptation du livre de Marcelo Paiva qui raconte son histoire familiale et la disparition de son père Rubens Paiva. Donc, le scénario est inspiré de vie et de faits réels. Eunice Paiva est interprétée par Fernanda Torres. Et à ce jour, ce film de Walter Salles a réuni plus de 3 millions de spectateurs au Brésil. Ariane.
En fait, ce qui m'a intéressée, c'est que c'est un film qui parle d'une disparition, mais qui s'intéresse à ceux qui restent, et à ceux qui attendent, et à ceux qui espèrent, et surtout à cette femme. Ça raconte la métamorphose d'une femme, en fait, d'une femme qui, au départ, est une femme douce, joyeuse, aimante, une femme au foyer.
D'autant que la révolution est montrée comme une affaire d'homme.
Mais c'est vrai que toutes les réunions qui se font un petit peu dans le bureau du père et du mari, qui est un homme d'une bienveillance et d'une bonhomie absolument adorable, c'est que des hommes. Et effectivement, ce que ça raconte, ce film, et c'est pour ça que je pense qu'il m'a profondément touchée, c'est que ça raconte la métamorphose de cette femme qui, à partir du moment où il va disparaître, va être confrontée à cette violence, à cet arbitraire et à cette injustice profonde, parce qu'elle va attendre plus de 20 ans, je crois, pour qu'on lui donne enfin l'acte de décès de son mari. C'est ça que ça raconte. Elle va reprendre ses études à 48 ans, elle va devenir avocate, elle va en fait découvrir les vertus de la résistance. Et cet éveil-là, qui n'est pas seulement un éveil politique, hein, qui est un éveil, je dirais, presque intérieur, je trouve que c'est magnifiquement raconté. Ce film a eu le prix du scénario à Venise. C'est souvent un prix qui est un lot de consolation. Moi, je trouve que ce film, en termes de mise en scène, il y a un travail sur la lumière, par exemple, qui est absolument magnifique. Cette maison, effectivement, qui est le réceptacle de tout. Au départ, elle est traversée par des lumières extrêmement vives, colorées, et ça s'assombrit le moment où la milice pénètre dans cette maison. Juste cette scène, je la trouve exceptionnelle.
Et d'ailleurs, je vous conseille de vraiment rester dans la salle jusqu'à la dernière image du générique de fin. Ouais. Xavier ?
Je suis entièrement d'accord avec Ariane. Je ne suis pas un grand fan habituellement de Walter Salles, mais là, j'ai été conquis vraiment par la sobriété, l'intelligence. Il dit lui-même, c'est Antigone au Brésil. Donc, on revient sur la distinction.
Et qui résiste avec un simple sourire aussi.
Tragédie absolument, et la dignité de cette femme qui passe par le sourire, et il y a la distinction entre le drame et la tragédie, effectivement. Après, tu as raison, en termes de mise en scène, c'est absolument magnifique, parce que c'est une mise en scène de soustraction. Une fois que le mari a disparu, il faut tourner cette absence. Alors évidemment, il y a la solution évidente, mais qu'il manipule très très bien du hors-champ, mais comment effectivement montrer que la maison s'est assoupie d'une certaine manière, c'est éteinte, il n'y a plus de musique, et Walter Salles a connu cette famille quand il était adolescent, il y allait le week-end, il savait effectivement l'effervescence culturelle, politique qui y régnait, il n'a pas cherché à se mettre en scène dans le film, mais il se souvient d'un tourne-disque qui ne tourne plus, de lumière, de bruit étouffé, comme ça, d'un silence comme une chape de plomb, et il le dit lui-même, la dictature gagne quand elle a commencé à ravir la parole, effectivement, de celles et ceux qui la subissent. Le livre est sorti en 2015, et Walter Salles rappelle que 3 ans après, l'extrême droite triomphait dans les urnes, ça nous fait extrêmement peur et le film est magnifique.
C'est, l'arrivée d'ailleurs de l'extrême droite au pouvoir a ralenti la conception du film. Je voulais juste dire un petit mot aussi sur la bande originale qui est magnifique avec une chanson d'Erasmo Carlos à la fin que j'écoute en boucle depuis. Florence ?
Oui, c'est magnifique, c'est un très beau film. J'ai été particulièrement sensible à toute la première partie à cause de la peinture du bonheur, parce qu'en fait c'est très rare de montrer la vie d'une famille heureuse, une famille où on s'aime, et il réussit à caractériser chaque enfant. Il y a un très beau regard sur les personnages et qu'on suivra dans le temps, puisque malheureusement ils vont porter cette tragédie avec eux.
Y compris celle qui est partie, c'est très beau ça.
Exactement, toute cette partie à Londres, et elle communique par des films Super 8. C'est un film très vivant, on a l'impression vraiment d'avoir traversé un morceau de vie avec ces personnages, et on en sort enrichi par une réflexion, une émotion. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la transmission qui est très beau, puisque le personnage principal, on le découvre dans ces dernières années, joué par la mère de l'actrice, qui elle-même avait été révélée pour les Occidentaux par Central do Brasil, du même Walter Salles. Et cette présence-là, dans ces dernières images, est particulièrement belle.
Est-ce que c'est le deuxième film à faire l'unanimité à la tribune aujourd'hui ou pas, Pierre ?
Non, enfin oui. Non, mais ça m'a vraiment beaucoup rajeuni, parce que ça m'a rappelé l'époque dans les années 80 où alors il y avait que ça, c'est-à-dire que il y avait au Chili, il y avait Il pleut sur Santiago d'Elvio Soto, au Brésil il y avait Le baiser de la femme araignée, en Argentine il y avait Histoire officielle, Oscar 86, il y avait plein de films comme ça magnifiques. Bah là oui c'est irréprochable, c'est très très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Florence, c'est peindre le bonheur, c'est difficile, et je trouve qu'il le fait très très bien. À part ça, comment voulez-vous être contre un film comme ça? C'est évidemment, c'est généreux, l'actrice est magnifique.
T'es pas contre, mais t'as des réserves.
Non, j'ai pas de réserves, non, mais c'est-à-dire que c'est impeccable, quoi, c'est irréprochable, tout est bien, tout est exactement... Je suis pas sûr que vous ayez raison quand vous parliez de grande mise en scène. C'est un peu platounet, quand même.
Non.
C'est très, très même, c'est même, plus j'y réfléchis, très, 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 très platounet. Maintenant, évidemment, on peut pas être contre. Et puis, s'il l'a fait, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui menacent, qui vont nous arriver. Donc, c'est un film très utile. Donc, c'est irréprochable et utile. Comment être contre? Maintenant, dire que c'est un grand film, non. Voilà, c'est un petit film.
Comment être contre, il vient de le dire. Alors, virgule. 5 coups de cœur pour clore ce masque cinéma, dont un premier film avec François Damiens et Isabelle Carré. C'est ce que tu as choisi, Florence.
Oui, ça s'appelle La fille d'un grand amour, et c'est le premier film comme réalisatrice de Agnès de Sacy, qui est une excellente scénariste, qu'on connaît pour les films de Valéria Bruni-Tedeschi et son travail aussi avec Karine Tardieu. Et là, elle raconte l'histoire de ses parents, une histoire qui est à la fois une sorte de comédie du remariage, puisque à la faveur d'un film d'études que réalise Agnès de Sacy, ses parents vont se retrouver, retomber amoureux. Et puis c'est aussi le film d'un lourd secret familial très émouvant, très bien raconté. C'est aussi le double portrait de ces personnages joués par François Damiens et Isabelle Carré avec une finesse et un talent, une profondeur vraiment assez rare. Un film qui mérite vraiment d'être découvert.
La fille d'un grand amour d'Agnès de Sacy. Ariane.
Il s'agit du film Spectateur avec un point d'exclamation au bout, qui est donc le film d'Arnaud Desplechin. Et alors sa forme, ben voilà, c'est à la croisée du documentaire, de l'autofiction, de l'autoportrait même, et en même temps de l'essai. Et pourtant, ça n'est jamais un film ni savant ni excluant. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'en fait, ce film se situe toujours du côté du spectateur, des spectateurs. Alors c'est un film un peu touffu, hein. On est d'accord, c'est une exploration, donc il y a à la fois des extraits de films, des souvenirs, des petites scénettes de fiction, on entend parler de Proust, de Fantomas, de Bergman, mais cela dit, il y a quelque chose d'irrésistible quand même dans cet élan, même un peu inégal, c'est quelque chose qui s'appelle la générosité, la passion, donc je vous invite à aller voir le film de Arnaud Desplechin, Spectateur.
Tu ne vas nous parler, quant à toi, Xavier, du film de l'année, selon toi, que j'ai eu le tort de ne pas mettre au programme.
Je ne te reproche absolument rien, mais pour moi, effectivement, c'est déjà, ce mi-janvier, le plus beau film de l'année. C'est « Mémoire d'un escargot » d'Adam Elliott, qui nous avait ébloui avec Mario et Max il y a quelques années. C'est des petites marionnettes, c'est de la stop-motion. L'histoire de Grace et de Gilbert, ils sont jumeaux, ils avaient un père français qui était un artiste de rue. Ils sont désormais orphelins, ils sont séparés par la vie. Malheureusement, Grace reçoit l'annonce de la mort de Gilbert et elle ne s'en remet pas. C'est une petite fille et ensuite une adulte qui est toujours obligée de s'entourer comme un escargot. Elle passe son temps à s'enfermer dans des lieux qui ressemblent et qu'elle maîtrise par ses collections. Et en même temps, ça va être un immense élan vers la vie et vers l'espoir et vers l'amour. C'est un film sublimement mis en scène, bouleversant, mais Dieu que c'est beau.
Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott, qui d'ailleurs est un film France Inter et qui avait reçu le prix Cristal au Festival d'Annecy l'année dernière. Pierre.
Alors, chez Rimini Éditions, DVD et Blu-ray d'un film de John Ford qui s'appelle Les Cavaliers. C'est un film tardif de John Ford. C'est un film très mélancolique, en fait, c'est pendant la guerre de sécession, et je crois que j'ai rarement vu filmer aussi bien le drame d'une guerre civile, c'est-à-dire que ce sont des Américains qui se combattent les uns les autres, ils ne savent pas très 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 bien pourquoi, en fait, et tout est quand même très grave et très beau, et je trouve qu'il y a une réflexion de John Ford qui est très très belle sur, en effet, cette espèce de désastre qu'est une guerre civile.
Les voilà. Cavaliers, donc.
Les Cavaliers chez Rimini.
De John Ford. Et je termine ce tour de table en remontant aux sources du cinéma grâce à une bande dessinée signée Guy Delisle et consacrée à Edward Muybridge. Parce qu'en France, on est sûr que le cinéma fut inventé par les frères Lumière, mais chez les anglo-saxons, le pionnier du 7e art est anglais. Il a vécu aux États-Unis et c'est donc lui, Edward Muybridge, que Guy Delisle dessine avec une barbe comme un guitariste de ZZ Top. Et donc, Muybridge fut le premier à ralentir le mouvement en le décomposant et en saisissant un cheval au galop. Et il participe effectivement à l'invention du cinéma au point qu'on retrouve sa technique par exemple dans Matrix, la scène où Keanu Reeves est entouré par 150 appareils photo. Et Guy Delisle précise que Muybridge continue d'influencer le cinéma d'animation, que pour comprendre l'équilibre, le poids, la technique d'un mouvement, on continue de lui faire référence. Et par ailleurs, on y apprend que Muybridge, en plus d'être photographe, conférencier, scientifique, fut aussi l'assassin de l'amant de sa femme. Donc c'est une biographie, une histoire des images et de leur magie. Pour une fraction de seconde, la vie mouvementée d'Edward Muybridge, c'est signé Guy Delisle et le livre est paru aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. Pierre Murat, Florence Colombani, Xavier Le Herpeur, Ariane Allard, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque consacré aux sorties en salle. La semaine prochaine, toujours depuis le théâtre de l'Alliance française et en public, nous débattrons de l'actualité littéraire. Guillaume Giraud réalise Le Masque et la Plume, Jean-Baptiste Etchebarbord, Antoine Espel, Nadège Antonini et Leslie Horowitz étaient à la technique aujourd'hui. Ilinka Negulesco coprogramme l'émission, préparée avec Nina Malraix. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux débats sur France Inter, évidemment.